religion seule est restée toute neuve, la religion est restée simple, comme les hangars de Port Aviation. C'est ce qu'Apollinaire écrit dans Zone, et c'est ici que nous sommes, devant ce qui reste des hangars de Port Aviation. Pour y parvenir, nous avons traversé la rue Lénine, la rue Vaillant-Couturier à Viry-Châtillon. Nous avons longé la rue Piketty, qui n'est pas celle de Thomas Piketty, mais celle de Charles Piketty, qui était un enseignant du CRU. Et à côté de Piketty, nous avons longé également l'étang de la justice. Bref, traversant ces noms liés à l'aventure de l'émancipation sociale, nous sommes tombés dans le monde de l'aviation de 1900. Nous sommes à présent dans la rue de la Baronne de la Roche. La Baronne de la Roche, qui était née en 1865 et qui est morte en 1910, un an après l'ouverture de l'aérodrome de Port Aviation, a été la première femme brevetée pilote. Elle détenait le record de distance, 325 km, et le record d'altitude, 4500 mètres. Et nous sommes devant ce qui reste des hangars de Port Aviation qui avait si fort fasciné Apollinaire. C'est une petite maison, un ensemble de petites maisons avec des hangars, avec des colombages, avec le mess des officiers, et qui est un bâtiment absolument charmant à proximité de cette piste quadrangulaire où partaient les avions. Je vous ai parlé déjà d'Agram Bagramko, le peintre surréaliste dont nous suivons la trace. Et Bagramko écrit dans une lettre de 1951, alors qu'il vit en exil à Vancouver, « Rien ne me manque plus désormais, sauf le ciel de l'Île-de-France. Avant la guerre, écrit-il, j'allais souvent à Port Aviation. Le terrain avait fermé. Il restait une sorte d'hippodrome marécageux et les hangars, les maisons de bord de piste, évoquaient un campement d'aventuriers partis la veille pour on ne sait où. Je me couchais sur le dos pour imaginer des acrobaties d'avion. Et j'étais heureux, comme peut-être l'avait été avant moi le cher Guillaume. » C'est là donc qu'Apollinaire a probablement eu la première intuition de Zone. Il adorait l'aviation. Et on sait que de toutes les lectures possibles de Zone, la lecture spirituelle a sans doute été la moins pratiquée. Le Christ et les aviateurs, ou les fétiches, le pape, l'hypothèse de la confession, tout ce qu'on peut trouver dans Zone, passe très souvent pour des références un peu incongrues, un peu comiques, proches du jarry de la passion considérée comme une course de côte. Homère prophétise sans le savoir, disait Clément d'Alexandrie, et peut-être Apollinaire savait-il, en revanche, qu'il prophétisait. Et Zone est aussi un poème, ce poème de l'aviation que nous évoquons ici, devant les hangars de Port Aviation. Zone est aussi un poème de l'éternité, qui n'a pas à voir avec le passé ni avec l'avenir, mais avec le présent immédiat, d'où la préférence donnée précisément à l'aviation ou à la tour Eiffel et au prospectus sur l'antiquité grecque et romaine. Dieu, paraît penser Apollinaire, n'est présent dans aucune vieillerie. Il est présent dans l'instant même, il est présent dans le monde moderne. Et c'est ainsi qu'on peut lire dans Zone, sans y déceler en réalité, contrairement aux apparences, aucune trace d'ironie, « Seul en Europe, tu n'es pas antique au christianisme » ou bien « La religion seule est restée toute neuve, la religion est restée simple » comme les hangars de Port Aviation. Au moment d'alcool, et au moment de ce poème, au moment de sa passion pour les avions, Apollinaire a consommé bien des échecs. Il a été emprisonné à la Santé dans l'affaire du vol de la Joconde. Il a échoué à conquérir Annie Pleden. Marie-Laurencin s'est détournée de lui. La même pensée est entrée dans les ordres. Et sa demande de naturalisation sera bientôt rejetée par l'administration. Elle ne sera acceptée, comme on le sait, qu'en 1916. Entre-temps, il se sera engagé dans l'artillerie pour la durée de la guerre et aura participé à la seconde offensive de Champagne. De cet aérodrome de Port Aviation, il ne subsiste donc à présent que ce bâtiment dont je parlais tout à l'heure devant nous et qui est le petit hôtel transformé en messe des officiers, édifié pour les pilotes et leurs amis, et une hélice dans le blason de la ville de Viry-Châtillon. À l'époque de la création de cet aérodrome, Viry n'était qu'un bourg de campagne. Le terrain avait été improvisé dans une zone inondée, une sorte de marécage, mais ce terrain n'en a pas moins abrité de beaux exploits qu'on sent encore vibrer dans l'air tranquille de cette journée de juillet, comme l'exploit du comte de Lambert qui partit d'ici, de là où nous sommes, en 1909, pour contourner la tour Eiffel pour la première fois en avion et en revenir, ou en 1911, celui de Beaumont qui rallia Paris à Rome et reçut pour cet exploit la bénédiction du pape Pie X, comme il est écrit dans Zone que nous avons cité, l'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X. Lorsqu'il a reçu alcool, Max Jacob a écrit à Apollinaire « Je ne connais rien de pareil, rien de si grand, rien de si beau, de si orgueilleusement jeune. » C'était l'endroit pour s'en souvenir. 55 ans après le transfert de Port Aviation à Villacoublay pour y abriter l'école d'aviation militaire, en février 1961, le général de Gaulle a inauguré l'aérogare d'Orly-Sud. Et cette aérogare mérite également notre souvenir, puisqu'elle est devenue pour un temps la vitrine d'une France moderne, enfin délivrée de l'Algérie et de ses cauchemars, et vouée à toutes les facilités d'un monde en expansion, comme on disait alors. On y allait en famille le dimanche, comme dans le vers de Valérie Larbeau, « Demain, les magasins seront ouverts, ô mon âme ». Cette aérogare est aujourd'hui vouée aux transhumances de ce qu'on appelle le tiers-monde et elle s'en va un peu par plaques, il faut bien le dire, à l'image de cette passerelle qu'on appelle Pont d'Orly et que les Parisiens connaissent parce qu'ils passent dessous en allant à l'aérogare et qui fut un restaurant d'où regardaient passer les voitures des voyageurs, puis un dancing, puis rien. Vestige symbolique d'un État qui s'est plus dans l'éphémère en prétendant l'organiser. Il y a des héros de cette période, des héros qui sont ceux de notre jeunesse et dont on se souvient avec autant de plaisir que Apollinaire et ses avions. Le commandant Dromard, par exemple, qui fut de son prénom Archibald, un officier français du SDEC, un élégant patriote en guerre contre tout le monde, anglais, chinois, ancien nazi, affairiste et également diplomate. C'est Georges Lautner qui l'a mis en scène dans la série des films Le Monocle. On peut y admirer Robert Dalban dans le rôle du sergent Poussin et Dalio, l'ancien marquis de la Chaignette de Renoir, dans celui de l'ancien légionnaire Élie Meyeritsky qui meurt héroïquement. « Dors, petit français », lui dit Dromard en lui fermant les yeux. Orly est le centre d'une France de l'aventure. Le commandant Dromard y passe comme pour se retremper à l'énergie électrique du gaullisme, à son optimisme. Et en même temps, ce rêve apparaît comme un pis-aller, ce qui colore ces histoires extravagantes dans rien de mélancolie. Nous avons perdu les Indes, nous n'irons pas dans la Lune, nous ne nous sommes pas tout à fait libérés tout seuls, mais nos vies sont au cinéma. Mais au fond, c'est quand même Sébastien que les grands dans ces années-là nous ont proposé en exemple. Enfin, à moi, pas à Vincent qui est avec moi aujourd'hui, parce que Vincent, qui est un homme sage, enfin, ou plutôt ses parents n'avaient pas la télévision. C'est Sébastien qu'on nous proposait en exemple, petit garçon têtu, lâché dans la montagne comme Tom Morel sur le plateau des Glières. Et au fond, dans cette montagne qu'on regardait en noir et blanc sur le RTF, dans cette montagne où se retrempe l'amour de la liberté pour ceux qui l'aiment, on pouvait entrevoir sur le mur du refuge de la douane une affiche invitant à s'engager dans la Légion étrangère comme un rappel des riches heures de Bir Hakeim. La chienne blanche et sauvage, belle, qui bondissait dans les alpages, c'était un peu de l'âme française, pure et jamais asservie. Et que Sébastien fut incarné par un descendant du pacha de Marrakech, l'éternel allié des Français contre le sultan, accroché à cette étrange épopée enfantine, les derniers lambeaux de l'Empire. Au début de chaque épisode, Cécile Aubry prenait la voix de Sainte-Geneviève pour nous appeler à suivre toujours, sans nous laisser jamais décourager par rien, le lièvre blanc qu'on ne voit jamais. Le lièvre blanc qu'on ne voit jamais. Le petit garçon de Bernanos, celui qui à l'heure de la mort rallie sa troupe en désordre pour entrer le premier dans la maison du père, conservera pour nous, à jamais, le visage de Mehdi.